grand plaisir de vous présenter Pierre Baptiste, qui est entre autres l'un des meilleurs spécialistes aujourd'hui de l'art du djab. C'est un excellent choix de ce sujet de la conférence aujourd'hui, je pense, parce que, comme vous le savez, les conférences INA sont conjointement organisées par le Musée Guinée et le FEO. Et l'art du djab est vraiment au cœur de nos intérêts que nous partageons en commun. Je peux dire que le FEO, depuis le début, a mis vraiment une priorité sur ce sujet en envoyant Henri Parmentier au Vietnam en 1900, qui a tout de suite spécialisé le travail à ce sujet-là, l'archéologie et l'art du djab. Et je pense que le FEO n'a pas cessé depuis d'apporter des contributions fondamentales sur le monde du djab. Quant au Musée Guinée, le mérite lui revient d'avoir apporté ce sujet à l'attention du grand public français par ses collections uniques, ses conférences et plus récemment par une exposition en 2005, je crois que c'était une première mondiale, consacrée à la sculpture djab. C'était le fruit d'une négociation habile et délicate, je pense, à la part de Jean-François Jallet. Salut la présence ici aujourd'hui, président du Musée Guinée. Les cartes ont besoin du statut, comme vous le savez, contesté de cette ethnie au sein de la société de l'État vietnamien, mais qui a abouti, donc en 2004, je pense, un accord entre les deux États, les deux chefs d'État, puis l'exposition en 2005 sous le commissariat justement de Pierre Baptiste et de Thierry Zéphir. Au Musée Guinée, qui tous les deux ont aussi dirigé la publication d'un magnifique catalogue que vous connaissez sans doute. Donc c'est un beau projet, un beau sujet pour cette série de conférences. C'est aussi l'occasion pour remercier le Musée Guinée de cette longue et riche collaboration qui a soutenu de part et d'autre de la place d'INA les initiatives importantes des deux maisons depuis un siècle déjà. Je tiens à remercier aussi le groupe LVMH pour son soutien généreux de ce cycle de conférences et enfin, bien entendu, et surtout Pierre Baptiste pour avoir accepté d'assumer cette conférence aujourd'hui avec une communication intitulée L'art bouddhique au Djampa, influence et spécificité. Je parle de toi.
Merci beaucoup. Oui, effectivement, cette communication s'inscrit à la fois dans ce cycle consacré au bouddhisme et aussi dans la suite de travaux qui ont été initiés, on va dire, dans ce domaine, notamment par Pierre Dupont en 1951, et puis repris ensuite par Jean Boisselier en 1963 et d'autres auteurs, le dernier en date étant Nandana Chutivong, qui a consacré au bouddhisme au Champa, dans l'art Cham, un essai très important, synthétique, à la fois généraliste parce qu'il englobe l'ensemble du sujet et très précis, très pointu, auquel je vous renvoie, donc un essai qui fait partie des contributions que nous avons pu réunir dans la première partie du catalogue de l'exposition Trésor d'art du Vietnam, la sculpture du Champa, qui s'était donc tenue à Guimet, effectivement, comme vous le rappeliez, monsieur le directeur, en 2005. Donc l'objectif de cette conférence n'est évidemment pas de reprendre l'ensemble de ces travaux, nous n'en avons pas le temps, nous n'en avons pas la possibilité matérielle, mais d'en faire une sorte de synthèse en concluant, vous le verrez, sur un domaine qui a été esquissé notamment par Nandana Chutivong, aussi par le docteur Lutz, directeur du musée Rydberg, d'une certaine manière, mais qui, dans les grandes lignes, reste encore à défricher. En fait, le Champa, je vous le rappelle, bien sûr, ou en tout cas les territoires qui constituaient cette sorte de communauté, de royaume que l'on appelle aujourd'hui le Champa, se trouve, bien sûr, le long des côtes du centre et du sud du Vietnam actuel, et donc il s'agit de territoires qui, tout naturellement, étaient étroitement associés à la mer. Et les Cham eux-mêmes, on le sait par leurs textes, mais on le sait aussi par des traditions plus tardives, notamment en lien avec leur présence à la cour royale de Thaïlande, étaient et sont d'ailleurs d'une certaine manière aujourd'hui encore des marins hors pair. Donc des gens qui tout naturellement ont été en contact pendant des siècles avec les grands réseaux marchands, maritimes, qui ont relié la Chine à l'Inde, via, bien entendu, la péninsule malaise, Sumatra, les îles de Java et de Kalimantan, et puis le sud de la Chine. Donc, vous le verrez, naturellement, ce contexte particulier va profondément irriguer l'ensemble de l'art bouddhique Cham. En fait, les témoignages artistiques du Champa ancien concernant l'art bouddhique recouvre grosso modo l'ensemble des territoires des Cham que les Cham ont pu occuper, c'est-à-dire aux confins presque du delta du Mékong, un petit peu au nord du Mékong. Vous savez qu'on a du mal à cerner la limite en fait entre le monde Khmer aux alentours de l'actuelle ville de Ho Chi Minh Ville, Saigon, et des territoires les plus méridionaux du Champa, mais en tout cas on trouve un certain nombre de vestiges Cham dans la région de Phan Rang, etc. Le plus au nord, les vestiges les plus au nord se trouvent dans la province du Quang Binh, le site bouddhique de Dai Hu, qui a fourni un certain nombre de vestiges bouddhiques, notamment des bronzes dont nous allons reparler dans un instant. Il y a également le site de Miduk, toujours dans la même province vietnamienne actuelle du Quang Binh, qui a livré un certain nombre de témoignages, notamment des sculptures en pierre. On verra un petit Avalokiteshvara du musée Guimet, et puis d'autres bronzes assez intéressants d'un point de vue iconographique. Il y a aussi, plus près de l'actuelle ville de Hue, toujours au nord du col des nuages, donc le site de Thuy Cam, qui a livré un certain nombre d'images bouddhiques. Il y a bien sûr le site de Dong Duong, dont nous allons parler dans la deuxième grande partie de ce petit exposé, parce que ce fut le sanctuaire bouddhique majeur de la fin du IXe siècle et du début du Xe siècle dans cette région, dans cette province que l'on appelait autrefois Amaravati. Et puis, plus au sud, cette fois, on trouve moins de vestiges, mais assez révélateurs tout de même, vous le verrez, notamment dans le Binh Dinh, qui a livré davantage d'images bouddhiques plus tardives, des alentours des XIIe, XIIIe siècles, qui, elles, se rattachent presque complètement à l'art khmer contemporain, l'art khmer du style du Bayonne. C'est lié naturellement au lien que le roi Jayavarman VII a pu entretenir avec les Cham à partir de la fin du XIIe siècle, et nous ne parlerons pas de cet aspect-là du bouddhisme, qui fait dans le fond partie effectivement du bouddhisme Cham, en ce qu'il se rattache totalement au bouddhisme de Jayavarman VII du Cambodge. Et les vestiges les plus méridionaux ont été mis au jour non loin de Phan Thiet, dans la province du Binh Tuan, sur le site de Dong Binh, qui a livré un certain nombre de petits bronzes. L'ensemble de ces objets a bénéficié, pour la plupart d'entre eux, d'études, et notamment de Jean Boisselier, dans son manuel, dans son ouvrage consacré à la statuaire du Champa, Recherche sur les cultes et l'iconographie, en 1963. Mais dans le fond, depuis, il n'y a eu que relativement peu de chercheurs qui se soient intéressés à ces collections. En fait, la plupart de ces petits bronzes sont aujourd'hui conservés à Saigon, au musée d'histoire de Ho Chi Minh Ville, où bien peu d'entre eux, dans le fond, sont exposés. À la faveur de plusieurs missions, nous avons eu la possibilité de prendre des prises de vue que vous voyez ici dans les réserves de ce musée, et donc de réaliser une petite étude dont cette petite communication est en quelque sorte le fruit. Parmi ces bronzes trouvés donc de la manière la plus méridionale dans cette région de Phan Thiet se trouve cette petite image, donc 19 cm de hauteur, d'un Bouddha figuré debout en attitude frontale. Alors je vous passerai bien entendu les détails concernant l'iconographie même, le costume monastique fait de pièces de vêtements, etc. Toutes choses que vous connaissez naturellement et qui dans le fond sont communes à l'ensemble du bouddhisme. Ce qui est plus intéressant, me semble-t-il, sur cette petite œuvre que l'on ne peut pas rattacher comme d'ailleurs c'est le cas de la plupart des œuvres Cham, à de rares exceptions près que je vous mentionnerai, bien entendu, à l'épigraphie et au texte contemporain, eh bien, ce petit bronze, donc dénué de tout contexte épigraphique, peut se rapprocher d'images que l'on rencontre dans l'Asie du Sud-Est contemporaine, qu'il s'agisse de la Thaïlande centrale, l'actuelle Thaïlande centrale, dans l'Armon de Dvaravati, c'est ce que vous voyez avec l'exemple de droite, ce petit Bouddha conservé au musée Guimet, qui présente bien entendu la même image, avec le même type de costume monastique qui recouvre les deux épaules, et surtout le détail iconographique le plus intéressant concerne le geste des deux mains, le fait que le Bouddha effectue des deux mains la Vitarka Mudra, le geste de l'enseignement selon un principe que certains chercheurs, et notamment Pierre Dupont et puis ensuite Jean Boisselier, ont considéré comme étant une caractéristique même de cet harmone de Dvaravati. Tant il est vrai que en Inde, dans l'art classique Gupta et post-Gupta, dans le Maharashtra notamment, ces gestes sont effectués par une seule des deux mains du Bouddha lui-même. Et il semblait autrefois que c'était en Thaïlande centrale que, dans le fond, on rencontrait ce particularisme des deux Vitarka Mudra, donc pour les deux mains, dans la Thaïlande centrale. En fait, on s'aperçoit que on peut le trouver aussi au Champa, si tant est que ce geste ait bien été à l'origine celui de la Vitarka Mudra et non un double Abhaya Mudra. Mais il semblerait, malgré l'aspect ténu des petits fragments qui restent parce que les mains ne sont pas totalement complètes, qu'il s'agisse bien de la Vitarka Mudra. Et puis par ailleurs, dans ses proportions, même si le costume monastique est tout autre, on peut aussi comparer ce Bouddha en ce qui concerne les proportions du corps, la largeur des épaules, le traitement du bassin, par exemple, de certains bronzes javanais qui se rattachent à l'art de Java Centre. Ici, un petit exemple. Alors, c'est vrai qu'il a un costume monastique d'un type un peu différent, hein, qui laisse l'épaule droite découverte selon la tradition, et qui provient, lui, de Karang Ganyar, qui se rattache donc à l'art de Java Centre, musée national de Jakarta. Donc, un certain nombre de petites images pour lesquelles nous n'avons pas de contexte particulier, de contexte ni iconographique ni architectural dans le fond, parce qu'on n'a pas retrouvé à Dangbin de vestiges suffisamment éloquents d'un sanctuaire bouddhique, que l'on puisse comme ça rattacher à des traditions plastiques et iconographiques de tradition mone ou javanaise. La même chose peut être dite de ce petit Avalokiteshvara, figuré à deux bras, tenant une fleur de lotus et le vase à eau dans la main, et reconnaissable bien sûr au Dina Amitabha dans sa coiffure, provenant du même site, conservé au même endroit, et qui, lui, par ses proportions générales, surtout par l'abondance de ses parures, hein, bracelets, brassards, colliers, ceintures ventrales, etc., se rattache à des traditions que l'on trouve notamment dans l'art cingalais et notamment dans l'art d'Anuradhapura, et plutôt dans la deuxième période de l'art d'Anuradhapura. C'est ce que vous évoque la petite image de l'Avalokiteshvara de Thiriyaya, qui a été exposé il y a quelques années au musée Guimet dans le cadre de l'exposition consacrée au bronze bouddhique de l'antique Ceylan, et qui vous montre la transformation, si vous voulez, l'adaptation de modèles indiens très sensiblement antérieurs ou peut-être tout simplement contemporains dans l'art des Pallava, notamment le modèle de l'Inde du Sud, bien sûr. C'est ce que vous montre petit bronze de droite, cette fois-ci, ce Maitreya Pallava, qui est conservé à Madras et qui vous donne un peu le prototype de ces images bouddhiques représentant des bodhisattvas parés qui reçoivent, qui peuvent être coiffés ou d'une jata mukuta, d'un chignon d'ascète, ou d'un kirita mukuta, un couvre chignon orfévré, avec un diadème à fleurons, et qui sont parés donc de nombreux bijoux, comme vont l'être un certain nombre de bronze tian. Mais vous le sentez, je pense, sur cette image, c'est plutôt à travers les traditions singhalaises de l'art d'Anuradhapura, par l'assouplissement des formes, une certaine élongation, une certaine stylisation des formes, que ces traditions cham peuvent être mises en avant ou distinguées, si vous voulez, des traditions indiennes proprement dites. La même chose peut être dite de cet Avalokiteshvara qui figurait dans l'exposition du musée Guimet, et je vous renvoie à la notice du catalogue le concernant, qui a été retrouvé au Bindin sur un petit site qui, là encore, n'a pas livré ni d'inscription, ni de témoignage architectural d'aucune sorte, un Avalokiteshvara à quatre bras, Chaturbhuja, donc cette fois, avec ses attributs distinctifs qui permettent donc de le reconnaître, mais que l'on peut lui aussi rapprocher d'une certaine manière de ces iconographies de Bodhisattva, de l'art d'Anuradhapura, de la seconde période, cette seconde période dans laquelle, je vous le rappelle, se trouve assez lent même un certain nombre d'images qui relèvent visiblement du bouddhisme d'un contexte mahayanique, hein, alors que, évidemment, Ceylan est traditionnellement le creuset des traditions du bouddhisme du Theravada. Mais en fait, il y a un certain nombre de bodhisattvas relativement sophistiqués, on en verra un autre exemple tout à l'heure, qui relèvent de l'art d'Anuradhapura et qui témoignent effectivement de l'importance, de l'émergence en tout cas, de conceptions qui relève plutôt du Mahayana à l'intérieur de cette école de pensée. Et ici, comme dans l'exemple précédent, c'est dans le traitement du costume notamment que l'on peut voir cette influence singhalaise avec ce costume très stylisé, hein, cette longue dhoti, bien sûr, qui relève des traditions indiennes les plus anciennes, et notamment de l'Inde du Sud, mais qui est stylisée de manière un petit peu incompréhensible, si vous voulez, par ces stries de part et d'autre du pan médian, d'une manière qui ressemble tout à fait à celle que l'on trouve dans l'art d'Anuradhapura. Et d'ailleurs, j'avais oublié, il y a un instant, à propos du petit bronze, du petit Avalokiteshvara précédent, de rapprocher, là encore, le costume, très précisément, de ces traditions de l'art d'Anuradhapura. Et c'est assez évident sur le bronze tiam figurant au centre, sur notre photographie, qui vous montre, outre la ceinture ventrale, cette espèce de petite bouffette qui tombe, un pan médian, qui est plissé et qui tombe, qui forme une petite chute en encre, pour utiliser un terme que l'on utilise plutôt dans le monde khmer et dans l'explication des sampot traditionnels du Cambodge angkorien, cette petite chute en encre qui effectivement trouve sa source de manière très explicite dans l'art d'Anuradhapura. Je pense que de ce point de vue-là, l'influence est tout à fait évidente. Et puis, quand on remonte plus au nord, eh bien, on trouve donc le site de Dongzhong, ce site bouddhique majeur, dont je préfère parler dans un deuxième temps de ce petit exposé, tant il réunit, dans le fond, l'ensemble des traditions ou des influences que les Cham reçoivent des alentours du 7e jusqu'aux alentours du 10e siècle, et dont nous avons vu déjà quelques exemples que l'on a du mal, dans le fond, à dater. Hein, vous avez vu dans mes indications sous les photographies que la fourchette chronologique est, dans le fond, assez large pour ces œuvres, parce que, justement, elles sont dénuées de tout contexte épigraphique et que, dans le fond, elles se rattachent elles-mêmes à d'autres œuvres, à Ceylan notamment, que l'on ne peut que dater tant bien que mal d'un point de vue stylistique en s'appuyant sur un corpus épigraphique extrêmement restreint. Donc on reste encore dans un monde, bien entendu, très peu connu, et tant que l'on ne disposera pas d'inscriptions plus explicites, on restera toujours dans une fourchette chronologique par prudence plutôt large. Donc, on parlera de Dongzhuang tout à l'heure. Voyons ce qui se passe au nord du col des nuages, donc au nord de l'actuelle ville de Danang, notamment à Thuy Cam, ce site qui se trouve juste au sud de la ville moderne de Hue, à Miduk, tout à fait au nord, ce sont les deux derniers sites tout à fait au nord, et à Daihu, donc dans la province du Quangbin. En fait, à Thuy Cam, on a mis au jour dans les années 1920, c'est le père de Piret qui a fait ses fouilles, un certain nombre de petits bronzes, hélas, qui ont été découverts dans un contexte archéologique assez perturbé. Le père de Piret mentionne dans le bulletin de l'École française d'Extrême-Orient la nature de ses travaux à propos de Thuy Cam, à propos de Daihu, à propos de Miduk, mais il faut bien avouer qu'il ne s'agit pas du tout de fouilles archéologiques sérieuses, on va dire, ni même du type de celles qui avaient été effectuées en 1902 et en 1903 par Henri Parmentier dans le cadre de l'École française d'Extrême-Orient, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, monsieur le directeur. Donc ce petit bronze bien intéressant qui pour le moment n'est pas exposé au musée d'histoire de Ho Chi Minh Ville, qui est en réserve, qui est d'assez petite taille, hein, tout juste une vingtaine de centimètres, un bronze doré d'une assez grande finesse, peut-être inachevé ou peut-être associé à un groupe, à une triade un contexte qui nous est aujourd'hui inconnu, je vous le disais, et peut-être aussi ce bodhisattva venait-il s'adosser à un chevet dont on voit les vestiges dans les deux petits éléments de support qui se trouvent dans la partie gauche du piédestal. Cet Avalokiteshvara a quatre bras, donc tout à fait conforme à ceux que nous avons vus il y a un instant, notamment cet Avalokiteshvara trouvé dans la province du Bindin, reconnaissable à ses attributs, il n'y a aucun doute d'un point de vue iconographique, hein, le Dhinamitabha dans le chignon, le lotus, le livre, le vasao et le rosaire, tout cela, c'est bien évidemment conforme à cette iconographie, se laisse beaucoup moins bien comparer au prototype d'Inde du Sud, donc de l'art des Pallava, ou bien même de l'art cingalais que j'évoquais il y a un instant, cette deuxième période de l'art d'Anuradhapura. En fait, il faut probablement chercher dans cette sorte de maniérisme, cette élégance et cette attitude un petit peu davantage déhanchée, si vous voulez, une influence plus grande de l'art javanais des alentours des 8e, peut-être aussi du 9e siècle, mais en tout cas vraiment de la période de Javacentre. Pas encore le moment où les traditions javanaises vont s'assécher et se raidir en quelque sorte pour donner naissance à ce que l'on appellera ensuite l'art de Java Est, mais dont on voit bien l'évolution à la fin du 9e siècle et au début du 10e siècle. On le reverra tout à l'heure à propos d'autres bronzes Cham, donc précisément. Il me semble que la comparaison avec ce petit Avalokiteshvara, certes à 8 bras, donc d'un point de vue iconographique, ça n'est pas exactement la même chose, fonctionne assez bien. On a effectivement caractère davantage déhanché, hein, le poids du corps étant placé sur le côté par le fléchissement d'une des jambes, et qui donne donc à ce bodhisattva ce caractère un peu plus élégant, peut-être un peu plus précieux aussi, de même dans les proportions du visage, un peu plus circulaire, ses joues un peu poupines. On a quelque chose qui s'approche des traditions de l'art de Javacentre. Très différent est cet Avalokiteshvara trouvé pourtant exactement au même endroit, et c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer dans la première partie de ce petit exposé. Dans un même site, on trouve en fait des œuvres de tradition très diverses. On trouve en effet ici, toujours à Thuy Cam, cet Avalokiteshvara cette fois à deux bras, qui est très frontal, hiératique, et qui d'une certaine manière se rattache par l'allongement de ses proportions, ce caractère hiératique assez particulier, à des traditions autres cette fois-ci, notamment relevant davantage du centre de la péninsule indochinoise, à la limite entre le pays Khmer et le pays Mon, dans cet art de Prakon Chai, que l'on a nommé ainsi, en lien avec la découverte évidemment d'un grand nombre de bronzes, dont vous avez ici deux exemples, l'un du musée Guimet et l'autre du musée national de Bangkok, qui proviennent donc de ce site de Prakonchai, dans la province de Buriram. Donc on est tout à fait à la frontière, on n'est pas loin de la chaîne des dents grecques, on est tout à fait sur le plateau de Korat, on est à la frontière, en fait, entre la Thaïlande actuelle et le Cambodge, dans des traditions qui, dans le fond, relèvent à la fois du pays khmer de l'époque et du pays mon. Et c'est vrai que, notamment, le Maitreya du Musée national de Bangkok, dans le traitement du visage, par exemple, avec ce nez assez fort, l'importance aussi accordée aux oreilles, mais aussi, d'une certaine manière, le traitement de la jata, même si on a ici deux variantes avec une jata, un chignon d'asset qui est fait de boucles qui retombent de part et d'autre, mais en fait, on a aussi des exemples de jata avec des tresses horizontales, comme notre Avalokiteshvara de Tuika, dans cet art de Prakonchai. Simplement, on pourrait consacrer une conférence entière à ce simple sujet. Il me semble assez évident que dans sa partie supérieure, en tout cas, ce bodhisattva se rattache plutôt à ces traditions monkmer du centre de la péninsule indochinoise. Alors que pour ce qui est de la partie inférieure, du vêtement, si vous voulez, le costume plus traditionnel, lui, il s'inscrit dans ce que nous avons vu précédemment à Phan Thiet ou au Bindin, ces traditions qui relèvent de l'Inde du Sud, de l'Inde des Pallava. Donc, pour mémoire, je vous remontre ce petit bronze de Phan Thiet. Et puis, sur la partie droite de l'écran, cet Avalokiteshvara de l'art de Anuradhapura. C'est vrai qu'il y a, dans le traitement du costume, cette longue dhoti avec la ceinture qui retombe, formant une espèce de guirlande, si vous voulez, comme un U assez large, devant, à l'avant du bassin, au-dessous de cette petite bouffette avec une chute en ancre, il y a un dispositif stylisé, moins bien compris, mais qui dérive de ces traditions de l'Inde du Sud et de l'Inde de l'art cingalais d'Anuradhapura. Le site de Dai Hu, donc on est encore un peu plus au nord qu'à Thuy Cam, qui lui se trouvait dans l'actuelle province de Toa Tien Nhue, a livré lui un certain nombre d'éléments d'architecture et quelques bronzes qui se trouvent eux aussi aujourd'hui conservés au musée d'histoire de Saïgon. Parmi ceux-ci se trouve ce Bouddha, donc d'assez grande taille, 40 cm de hauteur, qui a figuré dans l'exposition consacrée aux arts du Vietnam qu'avait organisé Bruxelles au Musée Royal d'Art et d'Histoire. Je crois que c'était en 2003, mais je ne suis pas tout à fait certain de la date, je n'ai pas vérifié, je suis désolé. En tout cas, ce bronze figurait parmi la sélection d'œuvres, la petite sélection d'œuvres Cham dans cette exposition générale consacrée à l'art du Vietnam ancien. Bouddha très intéressant, qui montre un aspect plus sophistiqué, si vous voulez, dans le traitement du costume et aussi dans le traitement de la coiffure, avec cette coiffure, bien sûr, faite de tresses, comme il convient, mais ici des boucles qui sont très petites, avec une ushnisha qui, en outre, est surmontée, une protubérance crânienne qui est surmontée ici par un joyau. Et qui se rattache, cet ensemble de choses qui se rattachent à des traditions un petit peu plus tardives que ce que nous avions vu dans l'art mon de Dvaravati ou l'art classique de Java Centre. Et en effet, en Thaïlande même, on trouve, enfin dans l'actuelle Thaïlande même, on trouve dans des traditions plus tardives de l'art mon de Dvaravati, non pas celles des 6e, 7e siècles, mais plutôt celles des 8e, 9e siècles, voire peut-être un peu plus tard, ça n'est pas du tout impossible, des éléments de comparaison, me semble-t-il, assez convaincants. Certes, la différence ici réside dans le fait que le costume de notre Bouddha Cham soit marqué de larges plis. On va voir à quelle référence cela peut se rapprocher. Mais pour le reste, et notamment dans les proportions du visage, celle de la coiffure, il me semble que ces Bouddhas de Wat Chung Tha du Musée national de Bangkok ou celui du Wat Prasiratana Mahathat d'Ayutthaya, qui a de grandes chances d'être en fait plus tardif même que les dates que je propose ici, qui sont les dates traditionnelles, 8e, 9e siècle, et que je ne serais pas étonné de voir plus plutôt des alentours des 9e et 10e siècles, des éléments de comparaison assez proches donc de notre Bouddha de Daifu. C'est ce site aussi qui a livré le célèbre Avalokiteshvara, donc de Daifu bien sûr, qui est conservé toujours au musée d'histoire de Ho Chi Minh Ville, qui faisait partie des œuvres sélectionnées dans le cadre de l'exposition du musée Guimet. Un Avalokiteshvara conforme à ce que nous avons vu précédemment. Je n'y reviens donc pas pour ne pas perdre de temps d'un point de vue iconographique, mais qui, d'un point de vue plastique, est très différent de ce que nous avions vu précédemment. Il n'a presque plus rien. Il a gardé, bien sûr, cet aspect déhanché de l'Avalokiteshvara de Thuikam, qui relevait un peu des traditions de l'art de Java Centre, mais il y a une plus grande sécheresse dans le traitement de l'ensemble de cette œuvre, qui est très stylisée, dont la stylisation, d'ailleurs, renvoie à des traditions Cham des 10e, peut-être même début du 11e siècle, et que l'on peut rapprocher, mais alors là, c'est un peu gratuit, on va dire, d'iconographies qui n'ont rien à voir. Dans le fond, ici, ce Shiva de Tegal, une œuvre célèbre du Musée national de Jakarta, mais qui vous montre bien, de manière très explicite, me semble-t-il, cette évolution de l'esthétique javanaise à la fin de la période de Java Centre, donc aux alentours du 9e siècle, tout début du 10e siècle, où l'on a des œuvres très parées. Hein, on est là dans un art qui se veut un peu l'écho de ce qui se passe en Inde, dans le nord-est, dans les régions du Bengale ou de l'actuel Bangladesh, dans l'art des palas notamment, avec cette recrudescence, si j'ose dire, des parures qui sont de plus en plus découpées et qui presque semblent plus importantes que les divinités elles-mêmes. Donc un contexte un petit peu différent, mais là encore une image Cham qui renvoie à d'autres œuvres de l'Asie du Sud-Est et majoritairement, en tout cas, de l'Asie du Sud-Est insulaire. Hein, on a vu des exemples plutôt de Java et de Ceylan jusqu'à présent. On pourrait aussi évoquer d'ailleurs des exemples de la péninsule malaise, même si, hélas, les bronzes de la péninsule malaise sont dans le fond relativement moins bien documentés que ne sont ceux de l'art javanais ou de Ceylan, par exemple. Et toujours ce même site a livré, en revanche, un bronze qui n'a dans le fond rien à voir d'un point de vue plastique, qui est probablement un Avalokiteshvara, bien que la tête fasse défaut et que l'on ne sache pas non plus ce qu'il tenait dans sa main droite, mais c'est vrai que le vase à eau dans la main gauche semble convenir pour cette identification. Donc dans le fond, j'aurais peut-être dû ajouter un petit point d'interrogation sur mon petit cartel à propos de ce bronze assez impressionnant qui, lui, n'a rien à voir avec toutes ces traditions que j'évoquais précédemment, qui illustrent l'aspect Cham, purement Cham, de ces images et dont nous allons parler dans un instant à propos du site de Dongzhuang. En effet, d'un point de vue plastique, le traitement du corps très stylisé, avec ses bras très forts qui sont presque simplement de la moitié de la largeur de la taille de ce personnage, on trouve un écho avec d'autres images trouvées à Dongzhuang, comme la célèbre Tara ou Prajnaparamita, on n'en sait dans le fond pas grand-chose, du musée Cham de Danang, je vais y revenir dans un instant, qui figure sur la partie gauche de l'écran, j'ai oublié de mettre la légende qui l'accompagnait, pardonnez-moi, et que l'on peut aussi comparer bien sûr à l'une des Taras de Daihu, donc ce site du Kwangbin ayant, outre les bronzes que nous évoquons ici, livrés un certain nombre de sculptures en pierre, dont l'une est conservée au musée Cham de Danang, même si, en fait, aujourd'hui, elle n'est plus dans l'état que vous voyez sur la photographie. Elle a été en partie volée, en partie seulement. La partie centrale du corps a été... Enfin, l'ensemble de l'œuvre avait été démonté. La partie centrale du corps a été volée. Mais on n'a pas pu emporter, heureusement, le buste de ce bodhisattva féminin. qui est toujours conservé dans les réserves. Aujourd'hui, dans le fond, le musée Cham de Danang n'a pas encore trouvé de solution pour présenter les pieds et le buste sans avoir la partie centrale. Donc voilà cette œuvre ici photographiée dans les réserves du musée Cham de Danang il y a quelques années, où elle se trouve toujours. Et sachez qu'il y avait à l'origine au moins trois Tara ou Prajnaparamita à Daihu en pierre, qui relèvent toutes de ce même style de Dongzhuang, donc fin 9e, début 10e siècle. L'une des deux se trouve aujourd'hui exposée au musée d'histoire du Vietnam de Hanoï, dans l'ancien musée Louis Finot, et elle a bénéficié d'une présentation récente, c'est ce que vous voyez là sur la photographie de gauche, depuis la rénovation de la salle Cham de ce musée Louis Finot. Le site de Miduk, non loin de Daihu, a livré, lui, aussi un certain nombre de vestiges architecturaux très intéressants que l'on peut rapprocher de ce temple de Dongzhuang. Mais outre ces vestiges, donc ça n'est pas l'objet là de ce petit exposé, bien sûr, il y a un certain nombre d'images bien intéressantes et tout à fait exceptionnelles, notamment des bodhisattvas représentés en position assise, grosso modo dans cette position d'aisance royale que l'on mentionne parfois pour certains de ces bodhisattvas. Vous en avez un petit exemple ici qui n'est pas exposé, hélas, non plus, au musée d'histoire de Ho Chi Minh-ville, donc une petite œuvre qui mesure 14 cm de hauteur. Alors, un bodhisattva qui est de temps en temps identifié comme Avalokiteshvara, j'avoue, pour avoir mis le nez sur coiffure, le chignon d'ascète de ce bodhisattva, être bien incapable de l'affirmer. Je ne suis pas bien sûr que la chose qui se trouve dans ce chignon soit le Jina Amitabha. Ça pourrait, dans le fond, peut-être aussi bien être un stupa, et dans ce cas, on aurait affaire au bodhisattva Maitreya. Mais je n'ai pas pu le préciser. En tout cas, ces petits bronzes dont on n'a en fait que très peu d'exemples peuvent se rapprocher de traditions Pala, c'est vrai, c'est ce que l'on a dit le plus souvent, et je vous renvoie à l'ensemble de ces mandalas, petites figures de mandalas que l'on trouve de manière abondante dans l'art Pala et qui ont une telle importance à Java, dans l'art de Java Centre, là aussi, et nous avons au musée Guimet une assez belle collection de bronzes javanais de cette période de Java Centre qui montre justement des iconographies assez comparables à celle-ci, mais là, pour rappeler que les choses ne sont pas aussi simples, j'ai voulu aussi associer à ce bronze des œuvres qui relèvent de Ceylan, de Sri Lanka et de la région. Ici, ces deux images identifiées peut-être comme des taras, conservées notamment pour l'une d'entre elles au musée archéologique d'Anuradhapura, où vous voyez que l'on trouve dans le fond le même principe dans des traditions de l'Inde du Sud et de Ceylan, donc conforme à celles que l'on voit pour les images debout. Donc aller dire que les images Cham de Bodhisattva assises sont spécifiquement héritées de l'art Pala ou de l'art de Java Centre, c'est peut-être aller un petit peu trop vite. Là aussi, ces influences paraissent plus diffuses, plus larges, et on en trouve trace donc dans les traditions singhalaises et de l'Inde du Sud. La même chose pourrait être dite peut-être pour ce Bodhisattva, qui est peut-être Vajrapani, si c'est bien, comme le pense Nandana Chutivong, un Vajra qui figure sur le lotus qui apparaît, qui est maintenu dans la main gauche de ce bodhisattva et qui apparaît derrière son épaule. Mais là encore, ça n'est pas tout à fait certain. Encore qu'un certain assèchement ici de ce bodhisattva relève davantage de traditions plus proches de l'art des Pala ou de celle de Java Centre finissant. Et ce site de Miduk, là encore, a livré, parallèlement à ces bronzes, un certain nombre de sculptures en pierre. L'une des deux, la plus petite, celle qui est à gauche, est conservée au musée Guimet. Elle a été envoyée en 1936 à la demande de Philippe Stern pour illustrer justement l'importance de cet art Cham à cette époque. Et l'autre était conservée au musée Cham de Danang, où se trouve encore aujourd'hui le piédestal qui est coupé sur ma photographie, j'en suis désolé, et la partie du corps, si vous voulez, mais la tête elle-même a été volée. À peu près à la même période que la Tara de Daihu, me semble-t-il. Et donc, là encore, cette œuvre est conservée en réserve et on ne peut la voir que sur de vieux clichés, notamment pris dans les années 1920. Et c'est un repiquage d'un de ces clichés de nos archives photographiques que je vous donne ici, d'où sa qualité un petit peu défaillante, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs des clichés anciens qui sont plutôt très bons en général. Mais là, pour le coup, cette œuvre, hélas, n'avait pas en son temps bénéficié d'une couverture photographique de très grande qualité. Mais en tout cas, deux sculptures qui, là encore, se rattachent à l'art Cham dans ce qu'il a de plus essentiel et dans lesquelles on serait bien en peine d'aller chercher quelque influence de l'art Pala, des traditions d'Anuradhapura ou de l'art de Javacandra. En effet, il n'y a là que de l'art Cham, si j'ose dire, réduit à sa plus spécifique expression. Et donc cette expression dont les témoignages les plus remarquables se trouvent sur le site même de Dongzhuang, on va le voir dans un instant. Mais avant de terminer cette petite évocation des sites majeurs qui ont livré ces vestiges de l'art bouddhique Cham, il faut aussi mentionner quelques œuvres, hélas, sans provenance, il y en a toujours. Il y en a dans les musées du Vietnam, ici au musée d'histoire de Ho Chi Minh Ville, ce petit bodhisattva de provenance inconnue, mais qui visiblement semble ou se rattacher au site de Phan Thiet ou à celui de Thuy Cam, donc dans ces fouilles des années 20 qui ne sont pas très très claires, si vous voulez, mais en tout cas dans un contexte Cham, ça c'est à peu près certain, ce bodhisattva de provenance inconnue, un bronze doré fragmentaire que l'on peut là à coup sûr rattacher à des traditions spécifiquement chinoises, hein. Il en témoigne ici ce très bel Avalokiteshvara typique des Tang dans ce qu'il a de plus maniéré ou sophistiqué dans le plein 8e siècle, ou peut-être deuxième moitié du 8e siècle, avant que la grande répression de 845 ne jette à bas les prétentions des grands monastères bouddhiques dans cette région de l'Empire de Chine. Donc un Avalokiteshvara, où l'on trouve, me semble-t-il, une parenté avec ce petit fragment mis au jour donc dans un site Cham, aujourd'hui inconnu. Alors d'abord la qualité du bronze, l'aspect de la dorure qui est nettement mieux conservé. Bon, on voit la manière de tenir le vase, nettement plus bas, posé plus bas, si vous voulez, le long du corps que dans les traditions Cham ou cingalaises et de l'Inde du Sud. Et puis, bien sûr, la sophistication du costume, avec notamment cette espèce de ceinture qui forme comme une sorte de grand chapelet monastique qui tombe en une guirlande le long du corps, le long de la cuisse droite, et qui va remonter de l'autre côté derrière le vase. Donc là, un élément chinois absolument évident. Il s'agit là non pas d'une œuvre Cham, mais en fait d'une œuvre chinoise, c'est absolument certain. Et puis, parmi ces œuvres dont la provenance n'est pas assurée, il y a aussi ce très beau fragment conservé au musée Guimet, qui était autrefois dans la collection de Georges Alphen, qu'il a donné au musée Guimet. Donc cet Avalokiteshvara, en tout cas, très probablement Avalokiteshvara, reconnaissable à son Jina Amitabha, une très belle tête d'assez grande taille, hein, si l'on en juge qu'il s'agit là uniquement de la tête, donc une œuvre qui à l'origine devait mesurer aux alentours de d'un mètre à un mètre dix de hauteur, peut-être, donc un bronze vraiment de très grande qualité qui figure donc dans nos collections et qui lui peut se rattacher, et là on ignore le lieu de provenance de cette œuvre, peut se rattacher par son caractère élégant et sophistiqué, notamment dans l'agencement de la jata, à ces merveilleuses Avalokiteshvara des traditions Pala, dont on trouve de beaux exemples dans, au Bangladesh. Aujourd'hui, évidemment, je ne résiste pas, même si c'est un coup de couteau dans le ventre que je me fais d'une certaine manière, à vous remontrer ce très bel Avalokiteshvara de Mainamati qui devait figurer parmi les chefs-d'œuvre exposés au musée Guimet dans l'exposition réalisée par Vincent Lefebvre tout récemment. Et donc, dans le traitement du diadème qui est devenu le Kirita Mukuta, qui est devenu cette espèce de Kirita uniquement, d'ailleurs ici, parce que c'est un Jata Mukuta, pardon. Donc, ce ruban assez longiligne, marqué de trois fleurons, on a un écho dans l'Artyam de ces traditions pala les plus sophistiquées, avec aussi, bien sûr, cette mise particulière de la chevelure qui donne lieu à cette stylisation assez étonnante. Le fait aussi que probablement les boucles de cheveux devaient tomber de part et d'autre. Alors là, vous me direz que je rêve, évidemment, puisque nous n'avons plus les épaules de notre bodhisattva, à guillemets, mais on en voit tout de même à la partie inférieure, on le devine, j'espère, sur la photographie, on en voit le départ à la partie inférieure de notre petit fragment du musée Guimet, et donc qui évoque, me semble-t-il, assez bien la tchamisation, si vous voulez, si j'ose employer ce terme, donc dans ces régions du Champa, de traditions pala les plus sophistiquées, et dont le Manjushri d'Ungenplak est un des exemples les plus beaux aussi dans l'art de Javacentre. Donc là encore, on est à la fin plutôt de cette période de Javacentre, peut-être aux alentours du 9e siècle. C'est assez difficile à préciser, mais c'est probablement plutôt à ces traditions qu'il faut rattacher notre tête du musée Guimet. Mais venons-en, in fine, ou en tout cas plutôt dans la deuxième partie de cet exposé, au site même de Dongzhuang, donc, qui se trouve dans l'actuelle province de Quangnam, et qui est hélas extrêmement endommagé aujourd'hui. Donc on est au sud du Songtubon, ce fleuve si important de l'ancienne province d'Amaravati, au Champa, qui était étroitement associé à Misson, le site sacré. Hein, j'ai pas de flèche, mais enfin vous voyez tout ça, j'espère, à l'écran. Lui-même était lié à la ville de Chakyu, donc qui a été une cité importante, une des capitales Cham, même si ce mot de capitale dans le fond ne veut pas dire grand chose hein, dans un contexte aussi peu centralisé que n'étaient les royaumes Cham, en tout cas lié aussi à la cité de Chakyu. Donc cette ville de Dongzhuang qui va être étroitement associée à un certain nombre d'inscriptions que l'on rencontre entre la fin du 9e siècle et le début du 10e siècle, dans cette ville qui s'appelait peut-être bien autrefois Indrapura, la cité d'Indra, et qui est associée au mécénat d'un certain nombre de souverains, Badravarman et puis Indravarman II, enfin si c'est vraiment le deuxième du nom, ce qui n'est pas évident avec le contexte si particulier de l'épigraphie au Champa. Et donc ce site qui est évidemment célèbre, pardon, j'ai oublié de vous le préciser, parce qu'il a bénéficié d'une campagne de fouilles en 1902-1903 par l'école française d'Extrême-Orient, dirigée par Henri Parmentier et Charles Carpeau, dont nous avons aujourd'hui, heureusement, les échos précis grâce à la publication que va en donner Henri Parmentier dans l'inventaire des monuments Cham de la NAM, et grâce aussi aux clichés de Charles Carpeau, dont les vues stéréoscopiques sont aujourd'hui conservées essentiellement au musée Guimet, dans nos archives photographiques, mais dont l'École française d'Extrême-Orient possède aussi des tirages qui ne correspondent pas forcément toujours à des plaques de verre que nous possédons dans nos propre collection, ce qui fait que le fonds Carpeau est aujourd'hui, non pas divisé, mais en tout cas enrichi par ces deux collections qui sont souvent complémentaires, et il serait utile d'ailleurs dans l'avenir de pouvoir réaliser sous la forme d'une base commune l'ensemble de la couverture photographique dont avait bénéficié en 1902-1903 ce site pour pouvoir mieux le comprendre qu'on ne peut le faire aujourd'hui parce que hélas il a été totalement dévasté par la guerre américaine essentiellement. Et je vous rappelle que c'est sur ce site que l'on a retrouvé, un peu après les fouilles en fait, parce que ce n'est pas exactement dans le site même du temple de Dongzhuang, mais un petit peu au nord, que l'on a retrouvé, donc quelque part vers 1910, cette très belle image du Bouddha, figuré debout, reconnaissable bien sûr à son costume monastique, et que l'on a longtemps considéré comme étant un des plus anciens bronzes indiens retrouvés en Asie du Sud-Est, un des témoignages de l'art d'Amaravati, notamment 3e, 4e siècle de notre ère, retrouvés en Asie du Sud-Est. Donc, conservés aujourd'hui au musée d'histoire du Vietnam, Thierry Zéphir y a consacré une très longue notice dans le catalogue de l'exposition Cham à Guimet. Et en fait, on s'est aperçu, mais Thierry Zéphir n'a pas été le premier à le dire, mais il l'a précisé de manière peut-être plus explicite qu'auparavant, que dans le fond, ce très beau Bouddha, s'il n'était sans doute pas Cham en effet, n'était non plus pas indien, et qu'il était très probablement, c'en est même certain, en fait, cingalais, et qu'on pouvait le rattacher de manière très évidente à l'art d'Anuradhapura. Une fois encore, donc on a déjà mentionné plusieurs fois cet art d'Anuradhapura et la deuxième période de l'art d'Anuradhapura, donc plutôt aux alentours des 8e, 9e siècles, et je crois que c'est assez explicite avec ces deux images, le Bouddha du Viragala Sirisangabo Vihara, qui est conservé au musée d'Anuradhapura, ou bien celui du Viral Muripuva, conservé au même endroit, donc deux bronzes absolument exceptionnels qui montrent, là je crois qu'il n'est pas nécessaire d'insister, tout ce que le Bouddha de Dongdyong doit dans son caractère suave, dans les proportions d'un ovale parfait dans lequel s'inscrit le visage, la douceur des carnations, l'aspect plastique aussi, et puis bien sûr le traitement très sophistiqué, extraordinaire du costume monastique fait de ces plis, alors bien sûr qui sont dans les traditions de l'Inde du Sud, de l'art d'Amaravati, mais dans l'art d'Amaravati c'était quand même beaucoup plus sobre, et même si nous en avons un bel exemple à Guimet avec la sculpture rentrée relativement récemment dans la collection, quand même des plis beaucoup plus larges et qui n'ont pas ce caractère suave des œuvres cingalaises. La même chose peut être dite probablement d'un certain nombre de bronzes que l'on retrouve dans l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. Ici, ce Bouddha découvert dans l'île de Kalimantan, dans le secteur oriental de cette île, qui est conservé dans une collection privée, mais que vous pouvez retrouver dans l'ouvrage dirigé par Albert Le Bonheur, dans la collection Citadelle et Masno, consacrée aux arts de l'Asie du Sud-Est. Idem pour le Bouddha de Sikenden, bien sûr, du Musée national de Jakarta, que l'on date souvent des alentours du 7e siècle. J'ai laissé la date qui est mise dans les ouvrages de référence consacrés à cette sculpture et même encore dans les bronzes bouddhiques de l'Antique Ceylan, mais en fait il est très probablement plus tardif, comme notre bronze de Dongzhuang, des alentours du 8e, et nous pensons plutôt du 9e siècle. C'est-à-dire qu'il serait en fait contemporain de la fondation de cette nouvelle de ce sanctuaire à Dongzhuang par Indravarman II en 875, sanctuaire consacré à un bodhisattva Avalokiteshvara, mais qui est mentionné sous la forme de Lokeshvara dans les inscriptions Cham, que l'on nomme Lakshmindra Lokeshvara en référence au nom propre du souverain Indravarman, Lakshmindra Indravarman. J'ai oublié le troisième, mais ça c'est vous qui allez me le dire. Bhumishvara Gramin, voilà, c'est ça, merci. Donc, dans le fond, une œuvre qui probablement daterait du 9e siècle, et il serait assez logique de trouver dans un temple édifié en 875, une œuvre cingalaise, quand on connaît déjà par d'autres bronzes que nous évoquions tout à l'heure, les liens que les Cham ont pu tisser avec le Sri Lanka, donc de trouver une œuvre contemporaine de la fondation de ce sanctuaire. Et la même chose peut être dite de cette divinité que j'appelle encore Tara avec un point d'interrogation, que Nandana Chutivong appelle Prajnaparamita, et que beaucoup de Vietnamiens aujourd'hui, et de plus en plus, j'allais dire j'en ai peur, mais là c'est allé peut-être un petit peu trop loin, appellent Lakshmindra Lokeshvara soi-même, parce que effectivement un certain nombre de chercheurs vietnamiens pensent qu'il s'agit du Bodhisattva Avalokiteshvara, mais sous sa forme féminine. Et bien sûr, on les comprend quand on sait que dans les traditions bouddhiques vietnamiennes du Nord, et plus tardives aussi, Kuan Yin Avalokiteshvara est féminisé depuis assez longtemps, mais selon un processus assez lent quand même, hein, qui prend racine plutôt dans les alentours du Xe siècle, dans la Chine des Song, et qui, en Asie du Sud-Est même, ne se rencontre pas encore à la fin du IXe siècle. Donc pour les Vietnamiens, il s'agirait en fait, dans cette image féminine, du Bodhisattva Lokeshvara soi-même. J'avoue que, de mon côté, je n'ose pas encore penser que les Cham aient pu les premiers féminiser de manière aussi explicite, on va dire, ce bodhisattva sous les traits donc de celui que l'on trouve ici, ou de celle plutôt que l'on trouve ici à Dongzhuang. Il faut savoir que tout cela est parti des attributs qui existent encore de cette divinité, puisque ce très beau bronze du musée Cham de Danang a été mis au jour en 1978, à Dongzhuang même, non pas dans la première enceinte du temple, mais dans ses abords immédiats. Et en fait, le musée Cham de Danang a récupéré l'œuvre très rapidement, peut-être un peu trop rapidement, aux yeux du comité populaire local de ce site de Dongzhuang, qui en fait conserve depuis 1978, par devers lui, les attributs qui avaient été retrouvés au moment de la découverte. Et parmi ces attributs figure une conque et un lotus. Je pense bien qu'il s'agit d'un lotus, si ma mémoire est bonne. Mais en tout cas, je suis certain de la conque. Il n'en fallait pas plus pour les Vietnamiens de considérer que cette conque pouvait être associée à Vishnu. Et évidemment, l'épouse de Vishnu, c'est Lakshmi. Alors, Lakshmindra Lokeshvara, évidemment, ça nous évoque tout de suite quelque chose de bouddhico-vishnuite, mais en fait, les Vietnamiens oubliaient là, à mon sens, et je ne suis bien sûr pas le seul à le dire, qu'il s'agissait dans le nom de cette divinité, non pas d'une évocation iconographique, mais simplement d'un rattachement de cette forme de Lokeshvara au souverain qui venait fonder le sanctuaire. Lakshmindra, donc Indravarman, Lakshmindra, zut, j'ai encore oublié, Lakshmindravarman, c'est ça, hein. Lakshmindravarman, Bhumijvarman, Gramashvamin. C'est ça. On est d'accord? Bon. Non? Oui? Lakshmindra, Bhumijvara, Gramashvamin. Voilà, pardon. Parce que j'ai ça dans mes notes, mais bon, voilà, je préfère ne pas les relire trop, pardonnez-moi. Merci Anne Schweyer pour cette précision. Voilà, les choses étant ce qu'elles sont, on ne sait pas très bien qui est ce bodhisattva, parce que c'est vrai que le lotus et la conque, ça ne fait pas ni Tara ni Prajnaparamita d'une certaine manière. Alors, bon, dans le contexte assez obscur du bouddhisme du Mahayana de Dongzhuang, on ne peut pas dire dans le fond de qui il s'agit précisément. Ce qui est intéressant, c'est que l'image elle-même a cet aspect très cham par la stylisation des formes. Là, je crois que c'est évident, on ne va pas y revenir, je vous renvoie à la notice du catalogue dans le traitement du visage, etc., le costume aussi. Mais malgré tout, il semble y avoir dans une œuvre de ce type comme un écho de certains grands bronzes cingalais, là encore, et notamment ici, cette Tara, si c'est bien d'une Tara dont il s'agit, là encore, la Tara de Trincomalee, qui est conservée comme un des chefs-d'œuvre du British Museum de Londres, qui a été ramené dans la première moitié du XIXe siècle en Angleterre, qui est un très beau bronze doré, deuxième période d'Anuradhapura. Une fois de plus, donc vous avez vu que nous avons fait fréquemment référence à cette période, donc que l'on peut dater grosso modo des alentours du IXe siècle, peut-être plutôt IXe, Xe siècle, et qui effectivement nous montre un bodhisattva, ou en tout cas une entité bouddhique féminin, qui peut se rapprocher par certains aspects, me semble-t-il, de la Tara ou Prajnaparamita ou autre chose de Dongzhuang. Mais il y a d'autres images à Dongzhuang même qui sont plus énigmatiques encore et que Pierre Dupont, le premier, avait renvoyé donc dès 1951 à d'autres traditions et notamment à la Chine. C'est le cas, par exemple, des Dvarapala, des gardiens de porte, qui scandaient les quatre portes d'entrée, les quatre gopuras qui menaient au sanctuaire principal de Dongzhuang, consacré à Lakshmindra Lokeshvara. Vous en avez ici un exemple avec ces deux Dvarapala qui étaient les plus grands et les mieux conservés, les Dvarapala donc, de part et d'autre, donc le sud et le nord, du gopura de la deuxième enceinte de Dongzhuang. Vous les voyez ici photographiés par Charles Carpeau in situ, dans ce qui étaient les chapelles latérales de ce gopura assez étonnant, qui était fait d'un passage central, et de chaque côté il y avait des chapelles, donc à l'intérieur desquelles se trouvait chacun de ces Dvarapala, Et quand on pénétrait dans le passage central, en se tournant à droite et à gauche, voyez ce que l'on pouvait voir, c'était donc ces deux gardiens qui se tournaient en fait vers le visiteur central et qui étaient donc animés d'un mouvement de type combat, si vous voulez, positionnant leurs pieds sur un piédestal assez large, zoomorphe, avec une petite figure qui se dégage d'ailleurs de l'animal sur lequel il pose le pied. Ces Dvarapala étaient à peu près tous identiques, si ce n'est qu'ils se distinguaient par leur monture, hein, des animaux variés. Là encore, le temps ne me permet pas d'aller plus loin. Je vous renvoie à la notice dans le catalogue de l'exposition Cham consacrée aux Dvarapala qui étaient venus à l'exposition, à guillemets. Mais il faut savoir tout de même que les Dvarapala les plus proches du Saint des Saints, ceux du Gopura de première enceinte, étaient un petit peu différents. Ils ne luttaient plus vraiment. Ils semblaient victorieux. C'est ce que semble suggérer le geste de la main sur l'un des deux gardiens conservés encore à cette époque, en 1903, et qui ensuite a transité dans différentes collections privées, mais découpé, hélas, en morceaux. On voit donc ce geste de la main posé sur la cuisse qui n'est pas le même des bodhisattvas précédents, qui, eux, maintiennent toujours une arme et qui semblent en lutte de manière très explicite. Alors, voilà. Et en plus, ces gardiens un peu plus paisibles ou victorieux de la dernière enceinte, la plus proche du Saint des Saints, posaient leurs pieds non pas sur une base zoomorphe, mais anthropomorphe. En tout cas, pour autant qu'on puisse en juger sur les deux photographies que vous voyez ici, qui sont tous ce dont on dispose. Effectivement, cette espèce de yaksha moustachu assez étrange, aplati comme l'étaient les animaux, est bien un personnage et non pas un animal. Ça, on le voit pour le Dvarapala sud. Pour le Dvarapala nord, c'est un petit peu moins évident. On dirait d'ailleurs plutôt une tête de mort, finalement. Mais hélas, ce piédestal est tellement fragmentaire que ça n'est pas évident. Simplement, on devine quand même les doigts de la main gauche de ce personnage sur l'angle, donc tout à fait à droite de ma photographie. Je ne sais pas si c'est visible, qui semble bien confirmer mon hypothèse qu'il s'agissait là de deux personnages et non plus d'animaux, donc dans un contexte bien particulier de progression d'une enceinte à l'autre, faisant que ces gardiens luttent avec une entité qui prend des aspects animaux différents, exactement comme dans l'hindouisme on trouve Durga Mahishasuramardini luttant avec le démon buffle Mahishasura, qui à la fin du combat sort du démon buffle quand la tête est coupée sous la forme d'un petit personnage finit dans un combat ultime par essayer de lutter mais en vain avec Durga. Il semble que l'on ait exactement la même chose, que l'on avait à peu près la même chose à Dongzhuang, dans un contexte, hélas, qu'aucune inscription ne nous permet d'expliciter. Quoi qu'il en soit, ces gardiens relèvent par ailleurs, dans leur mouvement, dans le geste qu'ils font avec à la fois une lance pour les gardiens, ou un poignard pour les gardiens du côté sud, et un vajra, un diamant, le foudre plutôt, pour les gardiens du côté nord, ils sont en train de lutter dans une attitude dynamique qui nous renvoie tout de suite, de manière presque intuitive, j'ai envie de dire, à des traditions du bouddhisme, du Vajrayana, du bouddhisme tantrique, que l'on voit bien sûr surtout dans le monde himalayen, mais qui ont existé en fait dans l'ensemble du monde indianisé, Inde du Sud et Ceylan y compris, jusque en Chine et naturellement au Japon, où on trouve d'ailleurs dans les traditions des Lishe, les Rikishi au Japon, des iconographies assez proches. Alors bien sûr, on les a rapprochés des Lishe chinois, c'est-à-dire ces gardiens de porte, ces fiers à bras, si vous voulez, qui sont là pour protéger l'assemblée bouddhique et pour lutter contre les passions dont il faut que nous soyons détachés avant de pénétrer à l'intérieur du sanctuaire. Et donc on en voit en Chine même de très nombreux exemples. Ici j'en ai choisi un du Sichuan, tout simplement parce que le Sichuan c'est un petit peu moins loin du Champa que la Chine centrale elle-même. Mais c'est vrai que dans l'ensemble de la Chine, voilà un autre exemple ici, on trouve ces personnages très musclés, qui sont toujours dénudés à mi-corps, vêtus d'un petit costume assez court, en train de lutter un bras en l'air et avec ce mouvement des jambes bien particulier. Donc c'est vrai qu'on peut les rapprocher de ces licheux de la tradition chinoise. Et d'ailleurs, on les faisait aussi en bronze. Et les petits bronzes, ça circule mieux. Vous en avez ici un petit exemple qui est plus proche encore du Champa, qui a été trouvé dans le stupa principal du Hongshengse au Yunnan. Donc là, on est vraiment dans un contexte très lié, si vous voulez, à l'Asie du Sud-Est. Donc des iconographies qui, effectivement, auraient pu influencer les Cham à une époque où, justement, ils cherchent à tisser des liens historiques, des liens diplomatiques plutôt, avec la Chine, pour lutter contre le Vietnam, futur Vietnam, donc dans la partie nord du pays, qui commence à prendre de l'importance. Mais le problème de nos gardiens, c'est que, contrairement aux liches chinois, il repose sur quelque chose, sur un animal et ou sur un personnage. Et ça, dans la tradition chinoise, on le trouve sur une autre iconographie, celle des Lokapala, les Tianwang dans la tradition chinoise, donc ces gardiens des Orients qui, dans les assemblées bouddhiques, c'est vrai, ont une grande importance, mais eux, s'ils ont cette attitude dynamique, eh bien, ils ont l'air de bien dominer leur personnage, et surtout, ils sont toujours caractérisés par ces armures typiques de ce que l'on trouvait probablement à la même époque dans les armées de la Chine des Tang, ce qui n'est pas le cas de nos personnages. Et puis, j'évoquais aussi la présence de ce petit personnage qui lutte une dernière fois en émergeant de la gueule de l'animal, que cet animal soit une vache ou un taureau ou un buffle, ou bien que cet animal soit un ours, un lion, ou bien un macara. On trouve tous ces exemples, on trouvait plutôt tous ces exemples à Dongdung même, donc selon une tradition qui là renvoie plutôt à l'hindouisme et à Durga Mahisha Suramardini. Mais en fait, on peut aussi, me semble-t-il, rapprocher ces Dvapala de Dongzhuang d'un certain nombre d'iconographies du bouddhisme tantrique ou naissant comme tel, que l'on trouve, je vous le disais, dans l'ensemble du monde indianisé. Ici, un petit exemple qui vient de Ceylan. Donc vous voyez bien que Ceylan n'avait pas que des traditions du Theravada, puisqu'on a retrouvé ce petit Vajrapani dans l'enceinte du Jetavarana Vihara, et il a été trouvé dans un contexte archéologique très précis. Donc il n'y a pas de doute, on a là un petit bronze qui nous montre une divinité qui se rattache au bouddhisme tantrique, qui est présente d'une certaine manière une attitude assez proche de nos Dvarapala. Et c'est peut-être plus évident encore avec ce Vajrapani qui a été retrouvé en 1978, là encore au Yunnan, au Chongshengse, donc dans le contexte du royaume de Tali, dont je dirais juste un petit mot en conclusion. Et là, il me semble que la comparaison est peut-être plus frappante encore dans les positions des deux mains, hein, le fait que l'une des deux mains semble se maintenir, se tenir au naga, à son cordon d'ascète brahmanique en forme de naga, son naga yajnopavita, que l'on retrouve sur la petite pièce chinoise, le petit bronze chinois. Et puis alors lui tient un vajra, mais le nôtre tient une lance, ou plutôt une dague. Mais le geste est vraiment exactement le même, comme d'ailleurs l'est aussi l'attitude courroucée, hein, les yeux globuleux, etc., typique de ces iconographies tantriques qui montrent des entités bouddhiques en train de lutter dans cette lutte si importante dans le cadre du Vajrayana. Mais en Chine même, on pourrait enfin aussi rapprocher ces Dvarapala de Dongzhuang d'autres iconographies moins claires, moins explicites, comme ici des gardiens dits, on va dire pudiquement, Shenwang, parce que dans le fond, je pense qu'en Chine même, on a du mal un peu à cerner leur véritable nature. donc des rois esprits, si vous voulez, c'est un peu ça que ça signifie, Shen Wang, qui bordent les deux accès d'une porte, d'une des grottes excavées du Ling Chuan Se à Paoshan, au Henan, donc là on est tout à fait en Chine centrale, mais où on voit des gardiens un petit peu différents des nôtres, mais armés quand même, et qui, eux, sont effectivement sur des animaux type buffle, et l'autre doit être un ours, je pense, donc des animaux que l'on retrouve à Dongduang même, mais dans un contexte qui n'est dans le fond pas très très clair. Donc en tout cas, des iconographies que l'on a vraiment envie de rattacher au contexte du Vajrayana et aussi à certaines images de Chine du Sud. Et ce Vajrayana potentiel dans l'art bouddhique de la fin du 9e siècle, début du 10e siècle, était aussi illustré par une image, alors là, très très humble, qui est mentionnée par Henri Parmentier dans son étude, dans son inventaire, et pour lequel on n'avait aucune photographie autrefois, mais en fait, en regardant en détail les photographies Carpeau, eh bien, on voit effectivement le fragment de cette sculpture étonnante qui montrait un Bouddha, ou plus précisément un Jina, le Jina Vairochana, qui apparaît sur cette photographie trouble immédiatement à gauche du petit personnage en train de tenir l'ombrelle qui permet à Charles Carpeau lui-même, semble-t-il, encore c'est lui qui est censé être le photographe, enfin bref, je ne sais pas trop si c'est Parmentier ou Carpeau, là avec sa barbe, on ne le connaît pas très bien, donc de prendre des notes près de la tour principale de Dongzhuang dans les tout derniers temps de la campagne de fouilles. Eh bien, on devine une sculpture qui est vue de trois quarts d'eau, munie d'un tenon, et dont nous avons par ailleurs une vue de face. Alors là, je vous demande de m'excuser pour le caractère vraiment désagréable de ce document photographique, mais c'est vraiment tout ce dont on dispose aujourd'hui. Et nous avions pu heureusement le publier dans le cadre du catalogue de l'exposition de Guimet, consacrée au Champa, dans l'essai de Nandana Chutivong. C'est effectivement ce Jina Vairochana qui est tout ce qu'il en reste. C'était un grand Jina, il était d'assez grande taille, si l'on en juge par... Il faisait un peu plus d'un mètre cinquante de hauteur, assis à peu près, 1m20, 1m50 peut-être, grosso modo. Mais c'est le fragment heureusement explicite de la mudra effectuée par les mains donc, de ce Jina qui nous permet de dire qu'il s'agit du Jina Vairochana, puisqu'il s'agit de la Bodhyangi mudra ou Bodhyagri mudra, donc une mudra qu'on connaît très très bien dans l'ensemble du monde chinois, mais aussi dans le bouddhisme tantrique que l'on va trouver dans l'art de Javacentre notamment. Il y a des petits bronzes qui montrent cette iconographie. Mais c'est quand même la salle au pilier, le Vihara de Dongzhuang, qui a livré les témoignages les plus éloquents de ses influences Cham, et notamment influence chinoise dans un contexte Cham. Voilà à quoi ressemblait l'intérieur de cette salle d'assemblée en 1903. Hélas, le piédestal avait été complètement démantelé par les pilleurs, les chercheurs de trésors et de dépôts de fondations. Et quand Henri Parmentier a nettoyé l'ensemble avec Charles Carpeau et qu'ils ont retiré les sculptures qui avaient été mises au jour dans le contexte très perturbé de ce Vihara, voilà ce qu'ils ont pu photographier. En fait, une salle d'assemblée au bout de laquelle se trouvait un piédestal moitié en briques, moitié en grès, dont tous les blocs étaient éparpillés, précédé par deux éléphants, c'est ça, ces sortes de sculptures là que vous voyez à l'avant, notamment un éléphant, l'un des deux, qui a gardé sa tête, mais hélas, dont la trompe est cassée. Et derrière, il y avait tout un groupe de sculptures dont on a pu reconstituer depuis l'assemblée. Voilà ces sculptures prises, photographiées sur le site après qu'on les ait dégagées de l'ensemble disloqué de cette grande salle d'assemblée, d'autant plus disloquée que visiblement la toiture faite de bois et de tuiles s'était effondrée sur l'assemblée. Le piédestal en bloc multiple, hélas, n'a pas pu être reconstitué à l'époque parce qu'il était associé à des éléments de soubassement en briques qui étaient totalement désagrégés à l'époque même. Et on va replacer tout cela en 1936 au musée Cham de Danang, sous cette forme un petit peu évocatrice, si vous voulez, mais qui n'a évidemment rien à voir avec ce que c'était à l'origine dans cette composition qui est un petit peu un effet d'ensemble, si vous voulez. On a placé des éléments les uns sur les autres pour faire joli, si j'ose dire, au musée Cham de Danang. Et ça a été la présentation de ce musée jusqu'à une date tout à fait récente, puisqu'en fait, On a démonté les piédestaux que grâce aux travaux de Bertrand Porte et l'atelier de restauration de l'École française d'Extrême-Orient dans le cadre de la coopération qui a lieu en ce moment à Da Nang, au musée Cham, dans la perspective de la rénovation de cette salle. Et d'ailleurs, l'élément qui culmine la composition ici, c'est la tête de Bouddha qui est aujourd'hui à guillemets parce qu'elle a été envoyée en 1936, un petit peu après qu'elle n'ait été photographiée au musée Cham Da Nang, qui en possédait à l'époque une autre d'ailleurs, qui est aujourd'hui au musée d'histoire de Hanoï, mais peu importe. Donc, on a retrouvé tout un ensemble de personnages, notamment des moines, des bhikshus, qui se reconnaissent à leur costume monastique, au fait qu'ils aient ce geste d'offrande. Ici, celui que l'on a identifié avec un immense point d'interrogation comme un kashyapa, je vous renvoie à la notice du catalogue, et que l'on peut effectivement rapprocher d'images classiques de la Chine des Tang, ici à Longmen, au Henan, 8e siècle, effectivement, avec cette attitude comme ça du bhikshu, du moine, du saint personnage qui vient rendre hommage au bienheureux, qui vient lui offrir ou des fleurs de lotus ou des offrandes d'encens, par exemple, en tenant un brûle-parfum. Nous en avons des exemples, par exemple, dans les peintures de Tun Huang, assez explicites. En tout cas, une image dont on aurait du mal à trouver ailleurs qu'en Chine un correspondant immédiat dans l'harmonie de Dvaravati, à Ceylan ou à Java. Un autre exemple de la Chine des Tang, mais j'avance parce que je crois que le temps a joué peut-être un petit peu en ma défaveur. Un autre moine de ce groupe qui tient ce qui était probablement un brûle-parfum, je vous renvoie là encore à la notice, et que l'on peut comparer à des petits bouddhas ou des âmes renaissantes ou des moines qui font partie de ces grandes assemblées bouddhiques de la Chine, et notamment ici au Sichuan, au Shenningse. Vous voyez au pied du Bouddha, de part et d'autre, je suis désolé, c'est vraiment un document photographique ignoble, c'est un repiquage en fait d'un ouvrage chinois, on a deux bhikshus en train de tenir un brûle-parfum tendu vers le Bouddha lui-même. Et puis c'est aussi à ce type d'assemblée bouddhique chinoise que l'on peut rattacher ces entités qui étaient peut-être des bodhisattvas, ces élégants personnages. Nous en avions un à guillemets dans l'exposition qui venait du musée Rydberg. Le musée Cham de Da Nang conserve celui-ci, qui est le plus beau des deux, qui présente ces auréoles extraordinaires qui là aussi nous renvoient aux traditions chinoises de la Chine des Tang, ces auréoles lancéolées et flammées. Il y en a une ici qui est peinte dans le dos de ce bodhisattva d'une des grottes de Tun Huang, et puis que l'on peut reconnaître aussi à cette attitude très élégante en Raja Lilasana, donc une jambe repliée et l'autre pendante ou bien placée de cette manière assez élégante. Et effectivement, dans les assemblées bouddhiques chinoises de Tun Huang, on trouve des bodhisattvas de ce type. Alors j'avance, on trouve aussi ces gardiens qu'on a appelés de toutes les manières possibles et imaginables. Jean Boisselier parlait d'un dharmapala, d'un gardien de la loi, mais dans le fond, sans pouvoir vraiment préciser pourquoi il les appelle des dharmapala. À Da Nang, on les appelle Shiva, mais nous sommes bien persuadés qu'il ne s'agit pas évidemment d'une image de Shiva. Ils étaient plusieurs à Dongzhuang, on a retrouvé des fragments de pieds qui correspondent, ou de corps, ou de bustes, qui correspondent exactement à cette iconographie que l'on peut peut-être rapprocher de certains bodhisattvas, parce que c'est vrai qu'il en a la mise élégante, hein, le Kiritamukuta, l'ensemble des parures, etc., même s'il tenait quelque chose dans la main qui a plutôt la chance d'avoir été une lance ou peut-être un chasse-mouche ou quelque chose comme ça, c'est assez difficile à préciser. En tout cas, là encore, je rapproche ce personnage de ces grandes assemblées bouddhiques de Tun Huang. Mais avançons donc. Le grand Bouddha assis, dit à l'européenne, mais en fait tout simplement en Pralambapada Shana, qui est donc effectivement posé les deux jambes sur un trône, assis sur un trône, dit à l'européenne, est assez extraordinaire en ce qu'il pose toujours d'ailleurs les deux mains sur les genoux, selon l'iconographie que l'on explique assez mal. Ce qui est intéressant, c'est son costume plissé, que l'on peut renvoyer à des traditions chinoises. Alors, je n'ai pas le temps de vous expliquer l'histoire de la tête, qui n'est pas sa tête sur la photographie de gauche qui n'est pas non plus sa tête sur la photographie de droite. Ça, sur la photographie de droite, c'est une restitution qui a été faite très malheureuse au musée Tian de Danang, mais qui pourrait peut-être être celle du musée Guimet, quoi que j'en ai pensé il y a quelque temps. Mais j'espère pouvoir réaliser une empreinte en fait de notre tête pour vérifier si oui ou non il s'agit de celle qui se trouvait autrefois sur les épaules du grand Bouddha de cette assemblée dans le Vihara de troisième enceinte de Dongzhuang. Mais en tout cas, ce Bouddha qui se rattache de manière assez explicite, ça c'est Pierre Dupont qui l'a dit très précisément le premier, dès 1951, plutôt à des traditions chinoises, par ce costume à larges plis, qui renvoie à des traditions Tang, là encore, le fait aussi qu'une partie de ce costume monastique retombe sur son épaule droite, par ailleurs dénudée. C'est vrai que c'est un élément qu'on ne trouve pas en Asie du Sud-Est, par ailleurs, mais que l'on trouve dans les traditions chinoises Tang. Pour la petite histoire, dans la Chine des Tang, il pose très souvent le pied sur des bases lotiformes, bien dissociées, et en fait, c'était le cas du Bouddha de Dongzhuang. Il y avait deux lotus qui servaient de base, mais deux lotus séparés, comme dans la tradition chinoise, et contrairement à ce que l'on trouve le plus souvent en Asie du Sud-Est. Malgré tout, on peut aussi comparer ces grandes images du Bouddha à ceux du Bouddha assis en Pralamba Padasana à ceux que l'on a dans l'Harmone de Dvaravati. Alors là, on ne voit rien du tout, donc j'en ai un autre, peu importe celui-là qui venait du Prapatam Chedi, j'en ai un autre qui est conservé à Ayutthaya, Watanaprameru d'Ayutthaya, enfin dans la banlieue immédiate de la ville moderne d'Ayutthaya, où l'on a, vous me direz, c'est merveilleux, on a le geste des mains posées toutes les deux sur les genoux, ce qui ne trouve pas d'explication iconographique. Manque de chance, ce Bouddha a bénéficié d'une très grande restauration au XIXe siècle, quand le roi de l'époque va reconstruire le Watanaprameru et va installer à l'intérieur cette image du Bouddha qui est par ailleurs très fragmentaire. Et il a vite une des mains. Il y a une des mains qui est authentique, mais il semblerait bien que la seconde soit l'objet d'une restitution. Et donc on ne peut pas affirmer qu'à l'origine, il ait eu cette mudra particulière. J'ai oublié de vous dire qu'en Chine, c'est en général plutôt Maitreya qui est assis de cette manière, qui a une main sur le genou gauche et qui relève la main en Abhaya Mudra avec sa main droite. Pardon. Alors on avance. Ce qui est intéressant, c'est que ces grands Bouddhas de Dvaravati étaient associés à un siège, donc un trône, le trône du Bouddha par excellence, avec notamment des chevets ornés de makara. Il y en a un ici qui est au musée du Prapadam Chedi, qu'on aura peut-être la chance d'exposer à Guimet l'année prochaine dans le cadre de notre exposition consacrée à l'harmone de Dvaravati, aux traditions bouddhiques dans cette harmone de Dvaravati, et que l'on peut comparer évidemment aux fragments de chevet provenant de Dongzhuang, de cette salle d'assemblée, et qui est conservé à Guimet depuis 1936. Donc un fragment de trône, alors assez exceptionnel dans ses proportions, on est là dans l'Archam, c'est très différent de ce que l'on a pu voir à Java, ou bien dans l'harmone de Dvaravati, où ces traditions peuvent exister. Mais néanmoins, il s'agissait très probablement d'un trône du Bouddha, et un petit jeu que nous permettent aujourd'hui les photographies numériques nous permet d'évoquer à quoi devait ressembler ce Bouddha assis sur son trône dans le site de Dongzhuang, en réunissant donc des œuvres qui sont aujourd'hui à Guimet, dédoublées d'ailleurs pour le chevet, et au musée Cham de Danang. D'ailleurs, on trouve ça, effectivement, on trouve aussi de grands Bouddhas de ce type, mais c'est un petit peu plus rare dans l'art de Java Centre. Hein. C'est le cas au Chandi Mendut, notamment, il y a cette très très belle image du Bouddha Shakyamuni associé à deux bodhisattvas. Et dans l'harmone de Dvaravati, outre les grandes images intransportables, il y a des éléments comme les bases de roue de la loi d'Armachakra qui montrent des assemblées bouddhiques dans lesquelles le Bouddha, effectuant d'autres mudras, est assis en Pralamba Padasana sur un trône. Un exemple assez explicite se trouve au Watsutat, hein, dans cette stèle extraordinaire qui a été replacée plus tard, bien sûr, dans la base du grand Bouddha du Watsutat, donc dans le milieu du XIXe siècle. Le ministère des Affaires étrangères, l'École française d'Extrême-Orient et l'atelier de restauration du musée Cham de Danang, donc dirigé par Bertrand Porte, donc qui sera donc de reconstituer des éléments du piédestal, les blocs aujourd'hui éparpillés dans l'ancienne présentation de 1936, dans cette présentation qui associera donc l'ensemble des sculptures en fonction de leur rôle originel au sein de ce mandala. Voilà, j'avais prévu de vous parler un peu plus de Tali et du Yunnan, mais j'ai été un peu trop bavard, donc je crois qu'il est préférable que je m'arrête ici. Alors pour ceux que cela intéresse, j'ai un petit résumé de ma conférence avec une orientation bibliographique. Là encore, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais voilà, donc j'ai quelques exemplaires à votre disposition. Je vous remercie de votre attention et je m'excuse pour le retard que j'ai dû prendre dans ce développement de petite exposition.
C'est l'exposé magistral qui place l'art du Jamba dans un vaste champ d'influence iconographique, comprenant non seulement l'Asie du Sud-Est continentale, mais aussi Java, l'Inde du Sud, Palava et Ceylan. Et ce qui m'a particulièrement frappé, la transmission de ces représentation tantrique et d'autres qui sont parvenus au Vietnam par l'intermédiaire de la Chine. Ça, c'était particulièrement intéressant. Je vais, pour ma part, poursuivre cette conversation sur le Yunnan de Sichuan, etc. C'est particulièrement important, il me semble. Sans doute, votre exposé a suscité beaucoup de questions en commentaire. Malheureusement, on a dépassé notre temps un tout petit peu. Donc, je vous propose de clore la séance maintenant et j'invite tous ceux qui le souhaitent de rester pour discuter, si vous voulez bien, encore un peu avec le conférencier. Merci.